Amen. Ben, c'est toujours la grâce de Dieu et ben, je suis content d'entendre tous les louanges, c'est une bénédiction. Et ben oui, j'ai hâte pour le message parce que ça vient de la parole de Dieu. C'est pas de moi, mais au sujet des missions, et c'est tellement important et c'est tellement à mon cœur le sujet des missions. Ben, je veux apporter des versets qui sont un peu par rapport au message ce matin, qui sont connectés un peu au message. Le thème de réconciliation, c'est vraiment l'essence des missions. Réconciliation, ça dit dans 2 Corinthiens 5, « Si quelqu'un est en Christ, il est en nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça, c'est de l'émission, le ministère des réconciliations. Excusez. Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ, pour le ministère de réconciliation. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Merci. Celui, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin de nous devenions en lui justice de Dieu. Et ça, c'est le ministère des missions, la réconciliation. Mais on s'est dit que nous avons la fonction d'ambassadeur. Et il y a beaucoup d'ambassadeurs partout dans le monde, et comme les ambassadeurs politiques, même pour les ambassadeurs spirituels, ça prend de l'argent de les envoyer. Et ça, c'est le sujet dont on va parler cet après-midi, de dons missionnaires. Et on va répondre aux des questions par rapport des dons missionnaires. C'est dans 1 Chronique chapitre 29, on va voir une histoire qui nous montre des vérités au ce sujet. D'abord, je vais commencer avec des petites blagues, parce que le sujet de dons, ça peut être pas à l'aise par des gens. Juste pour, c'est pas donne-nous de l'argent. On va commencer avec un mot haut, si on peut dire. Un garçon et son père jouaient au magasin. Le père a proposé de payer 500 pour un jeu de jumelles. Et le garçon dit, papa, on joue au magasin, on ne joue pas à l'église.
On joue au médecin, on joue pas à l'église.
On joue pas à l'église. 500. 5 petites pièces. Papa, on joue au magasin, pas à l'église. Pour dire que les gens à l'église, ils ont peur de donner. Alors, ça c'est une blague. Oh, merci. C'est à cause de... J'ai ri... un peu tard auparavant, alors ça revient à moi. On raconte l'histoire d'un homme qui a fait un rêve horrible. Il dit, j'ai rêvé que le Seigneur prenait mon offrande du dimanche et la multipliait par 10 et que cela devenait mon revenu hebdomadaire. Un peu de temps, j'ai perdu ma télévision couleur. J'ai dû renoncer à ma nouvelle voiture et je n'ai pas pu payer ma maison. Après tout, que peut faire un homme avec 10$ par semaine? Si le Seigneur prenait votre offrande, la multipliait par 10 et en faisait votre revenu hebdomadaire, combien gagneriez-vous? Ça, c'est un pensée. Ben, on lit dans 1 Chronique, chapitre 29. Et on va lire un commencement, juste verset 10 à 14. Puis David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Et David dit, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, notre Père, Béni sois-tu d'éternité en éternité. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la splendeur, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, est le règne, et tu t'élèves en souverain au-dessous de tout. La richesse et la gloire viennent de toi. Tu as la domination sur tout. La force et la puissance sont en ta main, et en ta main est le pouvoir d'agrandir et de fortifier toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple que nous ayons le pouvoir d'offrir ainsi volontairement? Car tu viens de toi, et de ta main nous vient ce que nous te donnons. Et ça, c'est le cœur du message cet après-midi. De ta main nous vient ce que nous te donnons. L'idée, c'est vous ne pouvez jamais donner à Dieu quelque chose qu'il ne vous a pas donné le premier. Jamais. Et ce n'est pas juste de l'argent. On pense de l'amour de Dieu. Ça dit en 1 Jean 4, 19, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé
le premier.
On ne peut jamais donner à Dieu quelque chose qu'il ne nous a pas donné le premier. On donne notre vie à Jésus parce que Romains 12, il a donné sa vie pour nous. On donne à Dieu à cause qu'il a donné à nous, à cause de ce qu'il a donné à nous. Vous ne pouvez jamais donner à Dieu quelque chose qu'il ne vous a pas donné le premier. Et ça s'applique aussi des offrandes. Matérielles, merci. Ouais. Les choses matérielles, ils sont à Dieu aussi. Je vais commencer aussi avec des statistiques qui représentent les dons à l'Église. Cela représente pas juste Canada ou États-Unis, c'est Amérique du Nord, je pense, et c'est pas aussi juste les églises baptistes. C'est un grand un big brush. Ça coule de toutes les églises, je pense, mais les statistiques sont quand même choquantes un peu. Les dîmeurs, ceux qui donnent la dîme, représentent environ 10 à 25% de toutes les congrégations. Ça, c'est intéressant. 10 à 25%, ceux qui donnent la dîme. Le montant moyen des dons hebdomadaires par pratiquant est de 17 $ par semaine. Cela représente 73 $ et 67 cents par mois par donateur. Cela représente 884 par an pour chaque donateur. On va retourner ce statistique-là plus tard. Les chrétiens d'aujourd'hui donnent moins qu'ils le faisaient pendant la Grande Dépression. Ça, c'est intéressant. Moins. Les personnes qui gagnent moins de 20 000 $, c'est par année, sont 8 fois plus susceptibles de contribuer à l'Église que celles qui gagnent 75 000 $. Ceux qui gagnent 20 000 $ sont 8 fois plus susceptibles de contribuer que celles qui gagnent 75 000. La dernière, c'est vraiment choquant. Si chaque chrétien donnait une dîme de 10%, les organisations de foi disposeraient, écoute bien, de 139 milliards de dollars supplémentaires chaque année. Si chaque chrétien donnait juste la dîme de 10%, c'est pas juste les églises baptistes, c'est grand le. Qu'on dit, ben, d'avoir 139 milliards de dollars plus si chaque chrétien donnait la dîme. C'est pas non important, c'est important. Alors, je te demande, comment administrez-vous ce que Dieu vous a donné de sa main? Le contexte de cette histoire importe de Salomon puis David, deux chroniques. On est un chronique, mais deux chroniques commencent avec le début du règne de Salomon. Puis un chronique se termine avec la fin de celui de David. Ça, c'est le temps de l'époque qu'on parle maintenant. C'est ça ce qui se passe maintenant. L'histoire dans notre texte, c'est à la fin du règne de David, lorsqu'il a transmis le rôle de roi à Salomon. On voit dans chapitre 28, puis verset 5, « Et entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. » Ça, il donne le rôle de roi à Salomon. En ce moment-là, David a mis au défi Salomon pour suivre Dieu et pour bâtir une maison pour l'Éternel Dieu. Versets 8 à 10, chapitre 28. Maintenant donc, aux yeux de tout Israël, de l'Assemblée de l'Éternel et devant notre Dieu qui l'entend, je vous somme de garder et de rechercher diligemment tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous en faisiez héritier vos enfants après vous à jamais. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le avec intégrité de cœur et une âme empressée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne tout dessein de tes pensées. Et verset 10, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour bâtir une maison pour son sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Ça, c'est le défi que David a lancé à Salomon de faire en tant que roi. Ben, c'était le désir de David de bâtir une maison pour Dieu. Mais Dieu ne lui permettait pas. Dans verset 2 de chapitre 28, « Et le roi David se leva sur ses pieds et dit, « Mes frères et mon peuple, écoutez-moi, j'avais dessein de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je m'apprêtais à bâtir. » David était prêt pour bâtir la maison pour Dieu. Puis verset 3, « Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, parce que tu es un homme de guerre et que tu as versé du sang. » Ce n'était pas pour David de bâtir la maison de Dieu. Mais c'était pour Salomon. On a vu dans verset 6, « Et il m'a dit, Salomon ton fils est celui qui bâtira ma maison. » Même si David n'était pas capable de bâtir la maison, il a donné les matériaux pour que Salomon puisse la construire. Il a donné les matériaux. Et dans cette histoire qu'on voit, on peut apprendre des leçons pour nous à donner, pour les missions. Alors, on va voir quatre aspects de donnant à comprendre. On va voir premièrement la raison de donner. La raison de donner. Alors, on va répondre aux des questions par rapport des dons missionnaires. Et la question est pourquoi? Pourquoi donnerais-je? Pourquoi est-ce que je dois donner? Ou je devrais donner? La raison de donner. Et premièrement, je dis la première raison, même la seule raison qu'on peut avoir, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Pasteur Lévier a donné une bonne raison d'avoir une vie, de pas avoir une vie non fructueuse. Ça, c'est une bonne raison de donner quelque chose, de donner de l'argent. Mais la première raison, la seule raison importante, c'est pour la gloire de Dieu. Dans notre texte, chapitre 29, verset 1, « Puis le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'âge tendre, et l'œuvre est grande, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. » Le projet, le bâtiment, le temple, c'était le temple. On parle de le temple de Salomon, Solomon's Temple. C'était glorieux, c'était une grande chose. Mais il dit ici, c'est pas pour l'homme, c'est pour Dieu. Ça, c'est pourquoi David a donné. Il n'a pas donné pour que Salomon puisse être reconnu par tout le monde. Il a donné pour Dieu. C'est pas pour un homme, il est pour l'Éternel Dieu. Si vous donnez, vous devez donner pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, chapitre, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous bouviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est son Église. Jésus a dit qu'il bâtirait son Église. Ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas notre Église. C'est son Esprit qui nous dirige. C'est sa parole qu'on partage. Tous viennent de Dieu. Tous est pour Dieu. C'est tous pour Dieu. Si vous donnez quelque chose, si vous donnez aux missionnaires, si vous donnez la dîme, donne pour la gloire de Dieu. Vous ne donnez pas pour nous autres, pour Pasteur Roy ou moi. Les dîmes, et on va parler plus tard de l'abus de la dîme, mais on ne donne pas de l'argent pour nous. Ce n'est pas pour que Pasteur Roy et moi puissions acheter un motoneige pour avoir le fun ici au Québec. Ce n'est pas pour notre propre bien, c'est pour Dieu qu'on donne. Non point à nous, éternel, non point à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Psaume 115, verset 1. Et je vous dis, si vous donnez pour quelque autre raison que pour la gloire de Dieu, vous ne donnez pas pour la bonne raison. Je vais dire encore, si vous donnez pour quelque autre raison que pour la gloire de Dieu, vous ne donnez pas pour la bonne raison. Ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas des autres raisons à donner. Il y a beaucoup d'autres bonnes raisons à donner. Mais si vous donnez pour que vous sentiez mieux dans votre peau, ça c'est bon, c'est pas la bonne raison. Si vous donnez pour que Dieu vous bénisse, ça c'est pas la bonne raison. Si vous donnez pour que vous soyez une bénédiction à quelqu'un d'autre, ça c'est une bonne raison. Mais si vous donnez pour ce raison, sans la raison de pour la gloire de Dieu, ce n'est pas la bonne raison. On doit donner pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi on donne à Dieu. Ça dit en Matthieu 25, verset 37 à 40. Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et nous t'avons donné à manger, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et que nous t'avons vêtu? Ou quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus te voir? Et le roi répondant leur dira, je vous le dis en vérité, en tant que vous avez fait des choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me les avez faites à moi-même. On donne à Dieu. Oui, on donne l'offrande pour les orphelins à Malawi, mais c'est premièrement pour Dieu. On donne à des missionnaires qui sont sur le mur là, mais c'est pour Dieu. Si on donne à quelqu'un d'autre, c'est pour Dieu et pour la gloire de Dieu. Il y a un cantique en anglais qui dit « Thank you for giving to the Lord ». Merci d'avoir donné au Dieu, au Seigneur. Et dans l'histoire qui est dans le cantique, c'est quelqu'un qui est au ciel après leur vie. Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Pas beaucoup. Mais c'était beaucoup de gens qui lui approchaient et disaient « Merci d'avoir donné au Seigneur. À cause que tu as donné quelque chose, le missionnaire prêchait la bonne nouvelle à moi et je t'ai sauvé. À cause de la donne que tu as donnée. Merci d'avoir donné au Seigneur. Si vous donnez, donnez pour la gloire de Dieu. C'est la première raison de donner. Pourquoi est-ce que je donnerai? Est-ce que vous pouvez donner pour la gloire de Dieu? Et j'espère que la réponse est oui. On peut donner pour la gloire de Dieu. Mais deuxièmement, la raison de donner, c'est pour le travail à faire. Pour le travail à faire, ça dit en verset 2. David dit ici, « J'ai préparé de tout mon pouvoir pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'arène pour ce qui doit être d'arène, et beaucoup d'autres choses qu'on va pas prendre le temps de lire, mais simplement à dire la maison, le bâtiment qui était bâti, ça prenait des matériaux. On n'a pas vu de « Wow, ce temple est tellement glorieux. Wow, les murs en or, toutes les choses en argent, les matériaux précieux, ça prenait des matériaux de faire ça. » Pourquoi est-ce que David a donné pour le travail à faire? Parce que ça prenait beaucoup de choses d'accomplir. C'est comme on dit en Romains 10, 14, le verset qu'on a lu, le dernier message, « Et comment prêchent-ils à moi qui ne soit envoyé? Pourquoi est-ce que je dois donner aux missionnaires? Pour le travail à faire, le coût de la vie. Ça prend de l'argent pour les missionnaires à vivre, spécialement dans les autres pays où on ne peut pas avoir un travail, on ne peut pas avoir quelque chose de gagner de l'argent. Ils prennent des églises qui donnent. Les bâtiments d'église et les coûts qu'ils impliquent. Ça prend de l'argent d'allumer les lumières, d'avoir toutes les choses et pour les missionnaires aussi. Pourquoi donner? Pour le travail à faire. Le fait d'envoyer les gens et Romains à chaque maison au Canada, il y a un ministère, Canadian Gospel Project, le projet d'évangile canadien, on dit, c'est pasteur Al Stone, ils envoient un Jean et Romain, tu sais, les petits feuilles, il y a en arrière, oui, des Jean et Romain, c'est les livres de Jean et Romain dans la Bible, et on les imprime et envoie à chaque maison à Canada. Ça prend de l'argent de faire ça. Et c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est les vérités de la parole de Dieu dans chaque maison au Canada. C'est pas gratuit de faire ça. Même si le Poste Canada donne un bon prix pour envoyer, c'est comme 20 cents. 20 cents, c'est pas cher. Mais si on donne 5 millions, ça prend de l'argent. Ça prend, je pense que maintenant, il y a 400 000 $ de finir Canada. Ça prend de l'argent. Et c'est tellement important d'avoir la parole de Dieu à chaque maison ici au Canada. Alors, la raison de donner pour le travail à faire, il y a des choses qui doivent être faites. Ça prend de l'argent. C'est quelqu'un qui a parlé de cette histoire qui a dit David did the grunt work, so Solomon could get the glory. David a fait le travail, ou je dis, David a fait le sacrifice pour que Salomon puisse avoir la gloire. On voit les lettres du missionnaire. On lit des choses qui s'est passées, des choses que les missionnaires ont faites. Et les missionnaires reçoivent la gloire. Humainement parlant. C'est vraiment Dieu qui reçoit la gloire. Mais pour nous, c'est les missionnaires qui ont remercié. Les missionnaires qui... Oh, wow, on parle de cette missionnaire qui a fait telle chose. Mais c'est les gens comme vous autres qui leur permis de faire ça à cause de les dons. Alors, les dons de donner quelque chose à quelqu'un d'autre pour qu'ils reçoivent la gloire. Ou juste le recognition, le reconnaître.
Reconnaissance.
Reconnaissance, merci. Les missionnaires reçoivent la reconnaissance. Mais c'est à cause de vous et de moi qui a donné. Quelqu'un a dit, les gens ne plantent pas d'arbres s'ils ne sont pas là pour manger les fruits. Quelqu'un qui, ok, je vais planter un pommier, mais je ne vais pas être là quand c'est grandi d'avoir des pommes, alors je ne fais pas ça. Mais ça, ce n'est pas la bonne attitude d'avoir. Parce que, comme Pasteur Lévier dit, le fruit à notre compte, ça vraiment porte du fruit pour nous autres. Alors pourquoi? La raison de donner, premièrement, pour la gloire de Dieu, mais aussi pour le travail à faire, parce que ça prend de l'argent de faire des choses et d'avoir l'évangile pour tous. Et un verset philippien, un verset où on est là, philippien, chapitre 4 et verset 17. Je pense que Pasteur Lévier a lu ce verset. Non pas parce que je désire un don, mais je désire du fruit qui puisse abonder pour votre compte. Pourquoi donner? Pour la gloire de Dieu, pour le travail à faire qui porte du fruit pour votre compte. Mais deuxièmement, on voit non seulement la raison de donner, mais la réponse à donner. La réponse. Et la question, c'est, OK, comment? Comment est-ce que je devrais donner? Ça marche? Le bon français? How should I give? Comment est-ce que je devrais donner? La réponse. Premièrement, c'est volonté. La réponse, c'est volonté. Comment? Volontairement. C'est pas obligatoire. C'est pas... Si vous donnez pas, ça sera pas bon. Non, c'est volontairement. Dans notre texte, verset 6, alors les chefs des pères, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et de certains ainsi que les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Verset 9, les peuples se réjouissent de ces dons volontaires, car ils faisaient de tout cœur leur offrande volontaire à l'Éternel. Verset 14, ça dit, car qui suis-je et qui est mon peuple que nous ayons le pouvoir d'offrir ainsi volontairement? Verset 17, on voit aussi, c'est dans la droiture de mon cœur que j'ai volontairement offert toutes ces choses. La réponse, volonté. Êtes-vous disposé, êtes-vous volonté de donner? Ça, c'est la bonne réponse. Lorsque Russell Herrmann, charpentier de 67 ans, est décédé, en 1994, son testament comportait un ensemble de legs stupéfiants. Son plan de distribution comprenait plus de 2 milliards de dollars pour la ville d'Est Saint-Louis, un autre 1,5 milliard pour l'État d'Illinois, 2,5 milliards pour le système forestier national, et pour couronner le tout, Herrmann laissait 6,000 milliards de dollars au gouvernement pour l'aider à rembourser la dette nationale. Cela semble incroyablement généreux. Mais il y a un petit problème. Le seul bien d'Herrmann à sa mort était une Oldsmobile de 1983. Il a fait de grandes déclarations, mais il n'y avait pas de réelle générosité. Ses promesses n'avaient aucun sens car il n'y avait rien pour les soutenir. La véritable générosité n'est pas déterminée par le montant que nous donnons, mais par nos cœurs. Oh, je vous donne tel montant. Mais ce n'est pas le montant, c'est le cœur, c'est la réponse. Êtes-vous volonté? Êtes-vous disposé de donner ce que vous avez? Ça, c'est la réponse. Une histoire que Jésus... Ben, ce n'est pas une histoire que Jésus dit, c'était quelque chose qui s'est passé vraiment et Jésus a vu dans Luc 21. C'est Jésus, il leva les yeux et vit les hommes riches jetant leurs dons dans la trésorerie. Il vit aussi une pauvre veuve qui jetait deux pits. J'ai cherché. C'est quoi un pit? En anglais, c'est mites. C'est une pièce de monnaie de très petite taille et de la plus faible valeur. Elles étaient frappées en cuivre ou en bronze. Un expert pneumaticien a déclaré que c'était probablement la plus petite pièce jamais frappée par une nation dans toute l'histoire. En résumé, les deux pits auraient été assez d'acheter trois raisins dans les années 200 AD. Trois raisins. C'était tel montant de l'argent. Ça, c'est pas beaucoup. C'est presque rien. On va pas, mec, je vais acheter trois raisins.
Une pièce.
Un demi-pièce, je sais pas. Je vais le donner des trois raisins. Ça. C'est pas de valeur. Le pauvre veuve a jeté deux pits. Puis Jésus a dit ça. Il dit, je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a plus jeté que tous les autres. Car tous ceux-là ont jeté dans les offrandes de Dieu de leur abondance. Mais celle-ci a jeté de sa pénurie tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce n'était pas le montant, c'était le cœur. C'était la volonté. J'ai appris ce leçon pendant notre voyage à Ontario. En anglais, on dit « a green handshake ». Est-ce qu'il y a un mot en français pour ça?
Une poignée de main gardée, disons.
C'est quand quelqu'un vous donne bienvenue avec les mains, avec de l'argent là-dedans. Ça vient des États-Unis où tout l'argent est en vert. C'est le couleur est vert. Alors un green handshake. Ben tu sais, une église qui était tellement riche à des missionnaires. Ben c'était les deux petits gars d'âge de 8 ans qui m'a donné un petit clic 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 des pièces dedans. Les deux gars, $8. Mais ça, c'était précieux. Parce que c'était le cœur des petits gars de pas encore 10 années qui a la volonté de donner. Mais l'offrande de l'église, c'était quelque chose comme des $100. Pas beaucoup, beaucoup, mais c'était plus de $100. Mais les tout petits gars, $8, 8 pièces. Ça, c'était cher. C'était précieux parce que c'était vraiment l'histoire ici dans Luc qui a donné de leur cœur. Et j'ai appris vraiment l'histoire de pauvres veuves. C'était précieux pour moi. On va tourner, on va voir des passages dans 2 Corinthiens chapitre 8. Et tu peux garder un doigt ou un papier là parce qu'on va retourner beaucoup, mais pas trop beaucoup parce qu'on ne veut pas prendre trop de temps ici, mais des versets ici. On va lire pour maintenant juste verset 3. Verset 11, je pense. Verset 3. Car je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leur pouvoir, oui, et au-delà de leur pouvoir. Au-delà de leur pouvoir. Ça, c'est l'histoire des chrétiens de Macédoine qui a donné, et le pasteur a parlé là-dessus un petit peu, d'église qui a donné pour une autre église pour les aider. Mais ça donne, ils ont donné volontairement. C'est la volonté. C'est le disposé. Êtes-vous disposé à donner? Avez-vous la bonne réponse à donner? Volonté. Deuxième, volonté, mais aussi gaieté. C'est un bon mot?
Gaieté.
Gaieté. Gaieté. Avec une sourire. Comment? La question. Comment est-ce que je devrais donner? Volontairement? Joyeusement. Verset 9 dans notre texte, 1 Chronique 29. Avoir un doigt dans chaque passage pour tourner très vite. Mais verset 9. Et le peuple se réjouit. Le peuple se réjouit de ses dons volontaires. C'était une réjouissance. C'était joie. Salomon va bâtir une maison qui est en or, est en argent. OK. Bâtis ton maison, là. Ta maison. Non. C'était pas l'attitude. C'était une joie de donner. C'était pas obligatoire. OK, je veux donner. Et je donne avec joie. Une mère a donné à sa fille un quart et un dollar avant d'aller à l'église. Mets celui que tu veux dans l'assiette de collecte et garde-le pour toi. A-t-elle dit à la fille. En sortant de l'église, la mère demanda à sa fille quel montant elle avait donné. Ben, répondit la petite fille, j'allais donner un dollar. Mais juste avant l'offrande, le pasteur a dit que nous devrions tous être des donateurs joyeux. Je savais que je serais beaucoup plus joyeuse si je donnais le quart. Alors, je l'ai fait.
Le
25 cents. Oui. Oui, OK. Le DeepL, c'est pas vraiment le bon traducteur, des fois. Le pièce de 25 cents ou un dollar. Elle aurait donné le plus grand, mais le pasteur a dit on doit être un donateur joyeux. Alors, pensez qu'elle serait plus joyeuse si on donnait le moins montant. Alors, on donnait le moins montant. Ben, ça, c'est pas l'idée. C'est encore dans 2 Corinthiens, chapitre 9. Et effectivement, je pense que c'est dans les enveloppes d'offrande, le verset ici, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 9, que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, non à contre-cœur ni par nécessité, car Dieu aime un donateur joyeux. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est la réponse. Volonté, gaieté, de donner joyeusement. Troisièmement, la réponse, reconnaissance. Comment est-ce qu'on doit donner? Avec gratitude. Verset 13 dans notre texte. Maintenant, en notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. C'était une attitude de gratitude en donnant. Imaginez ça. Je vais donner quelque chose et je suis reconnaissant pour ça. Mais c'est vraiment, et c'est vraiment, on dit, c'est comme la réconciliation, c'est comme le pardon. C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour moi d'avoir la joie. Ça fait être bon pour moi de pardonner à quelqu'un. Ça fait être bon pour moi de donner à quelqu'un. Le panier de Noël, c'est bon de le voir plein de choses. Mais ça, c'est une joie de donner. Et on peut dire, oh, merci Seigneur. Je te remercie que je peux donner. La réponse, comment donner? Avec volonté, avec gaieté, avec reconnaissance. Je pense que j'ai perdu ma place dans 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens chapitre 9, il y a un verset là. Je pense verset 11, 2 Corinthiens chapitre 9. « Étant enrichi en toute manière pour toute libéralité qui fait rendre par nous de la gratitude envers Dieu. » C'est la gratitude. Et verset 15. « Or grâce soit rendue à Dieu de son don ineffable. » Reconnaissance. Remerciement. Gratitude. La réponse à donner. Troisièmement, on continue. Les ressources pour donner. Okay? On a vu la raison de donner, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour le travail à faire, la réponse à donner. Mais aussi les ressources pour donner. Et la question, quoi? Qu'est-ce qu'on donne? Et ça, c'est le thème du message. Ce que Dieu vous avait donné, vous a donné en premier. Ça, c'est qu'on donne. Le verset 14 de ta main nous vient ce que nous te donnons. Ça dit en psaume 50, verset 10, car tous les animaux des forêts sont à moi, les bêtes des montagnes par milliers. Tous appartiennent à Dieu. Même ce que nous tenons dans la main, ça appartient à Dieu. L'argent qu'on a, les choses matérielles qu'on a, ça appartient à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on donne? Ce que Dieu nous a donné en premier. Alors, si on voit ça, si on pense de ça, la question, c'est pas vraiment pourquoi. La question, c'est pourquoi pas? Ça appartient à Dieu quand même. C'est déjà de Dieu. Tout ce qu'on a est de Dieu. La ressource que Dieu nous bénit tellement. Que Dieu nous bénit. Il nous donne beaucoup, beaucoup plus qu'on a besoin. Donc, beaucoup dont on a besoin. Beaucoup plus. Ok, je vais faire ça. Dieu nous donne beaucoup plus dont on a besoin.
Que ce dont on a besoin.
On comprend. Ben, la ressource que Dieu nous a donnée, pourquoi pas donner à Dieu encore? Comme ça dit en Romains 12, qu'on représente notre corps comme un sacrifice vivant. L'idée, c'est à cause de ce que Dieu a fait pour nous, pourquoi pas donner nos vies à Dieu? À cause de ce que Dieu nous a donné, matériellement parlant, on peut dire, pourquoi pas donner encore à Dieu? Désolé, le temps perd, je vais skipper l'histoire drôle. Sauf si on veut que je le lise. Ok. On raconte l'histoire d'une femme qui avait fini ses courses et qui est retournée à sa voiture. Elle a trouvé 4 hommes à l'intérieur de la voiture. Elle a laissé tomber ses sacs de courses, a sorti un arme de poing et a crié « J'ai un arme et je sais m'en servir. Sortez de la voiture !» Ces hommes n'ont pas entendu une seconde invitation. Ils sont sortis et ont couru comme des fous. La femme, quelque peu secouée, a chargé ses sacs à provisions, puis est montée dans la voiture, mais elle avait beau essayer, elle ne parvenait pas à mettre sa clé dans le contact. J'ai dit quelque chose de bon. Elle s'est alors rendue compte que sa voiture était garée 4 ou 5 places plus loin. Elle charge ses sacs de course dans sa propre voiture et se rend au poste de police pour se dénoncer. Le sergent à qui elle a raconté l'histoire a failli tomber de sa chaise à rien. Il lui monte du doigt l'autre bout du comptoir où quatre hommes signalent un carjacking commis par une vieille femme aux lunettes épaisses et aux cheveux blancs bouclés, mesurant moins de 5 pieds et portant un gros homme de poigne. Non, aucune charge n'a été retenue. Elle pensait que c'était sa voiture, mais elle appartenait en fait à quelqu'un d'autre. Et nous-mêmes, nous pensons que nos vies et nos finances nous appartiennent, mais en réalité, elles appartiennent à Dieu. C'est une drôle d'histoire qui porte un grain de vérité. Dieu, je ne veux pas donner parce que c'est la mienne. Et Dieu dit, mais t'as donné en premier, c'est la mienne. Pourquoi pas donner à Dieu? Avec joie, avec volonté. Parce que les ressources, la ressource de donner, ça vient de Dieu. Tout ce qui est donné de bon et tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. C'est notre frère qui a lu ce verset ce matin, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça vient de Dieu. Et un premier verset dans ce sujet-là, 1 Corinthiens 16, on ne va pas tourner là, mais 1 Corinthiens 16, verset 2. Chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez soi et rassemble ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire des collectes. L'idée là, c'est comme Dieu l'a fait prospérer, comment Dieu a donné, de donner encore à Dieu. Et la dernière chose qu'on va voir, c'est la récompense pour avoir donné. On a vu la raison, c'est pour la gloire de Dieu, et tout c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est infiniment grandiose quand on pense de, quand c'est pour la gloire de Dieu, on peut finir là, parce que la gloire de Dieu... Et surtout, mais la réponse, la raison, la réponse, les ressources, mais la récompense. La question, qu'est-ce que j'y gagne? C'est quoi le don pour moi? Ben, premièrement, l'attitude là, c'est pas la bonne attitude d'avoir, mais c'est vraiment quelque chose qui est pour nous, en les dons missionnaires, ou les dons, ou les dîmes, qu'on va parler bientôt. Et le verset dans notre texte, 29 et verset 26 à 28. Qu'est-ce qui s'est passé pour David qui a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses? Qu'est-ce qui s'est passé? Ainsi, David, fils de Jesse, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. Il régna 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Il mourut en bonne vieillesse, rassasié de jours de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Qu'est-ce qui s'est passé pour David? Dieu a pris soin de lui. Dieu a pourvu pour tous ses besoins. Il n'a pas mouru dans pauvreté. Oh, j'ai donné, puis maintenant j'ai rien. Non, ça dit, verset 8, « Il mourut en bonne vieillesse, rassasié de joie, de richesse et de gloire. » Même s'il a donné, Dieu a pris soin de lui. Qu'est-ce que j'y gagne? En plus de la bénédiction de Dieu, c'est ça, la bénédiction de Dieu, que Dieu va pouvoir pour tous vos besoins. Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor et qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et j'aime ceci. Et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées. Si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure, qu'est-ce que j'y gagne? Dieu dit, éprouvez-moi si je ne pourvois pas pour vos besoins. La bénédiction de Dieu d'avoir
tout ce dont on a besoin. Une autre histoire, et puis après on va finir bientôt. Le pasteur Kuykendall, qui était pasteur au Texas, lorsque H.Z. Duke, fondateur de Duke et Duke and Dyer's Nickel Stores, en tout cas un homme d'affaires dans le Texas, a demandé à le pasteur s'il croyait à la dîme. À quoi il a répondu par l'affirmatif. Monsieur Duke lui a ensuite demandé s'il pratiquait la dîme. Si le pasteur qui croyait à la dîme pratiquait la dîme. Il a répondu, non, je ne fais pas. Je crois à la dîme, mais je ne peux pas la pratiquer. Voyez-vous, j'ai 13 enfants à la maison. À chaque repas, nous sommes 15 à nous asseoir à la table. Je ne reçois que 125 $ par mois. C'est bien longtemps. 1 500 $ par an comme salaire. Je dois entretenir mon propre cheval et mon propre buggy pour voyager constamment. Il est tout simplement impossible de subvenir à tous les besoins d'une famille de 15 personnes avec 125 $ par mois et d'avoir de l'argent pour payer la dîme. Je crois donc à la dîme et je la prêche, mais je ne peux pas la pratiquer. Ça, c'est pas bon. Mais l'homme d'affaires, M. Duke, a alors dit, je veux que vous vous efforciez de donner à Dieu au moins 12 et 5 ans par mois dès que vous recevez votre salaire. Ensuite, si vous vous sentez poussé, vous pourrez donner plus. Je vous promets que si vous avez besoin d'aide, je vous la donnerai. Il suffit de m'écrire une lettre et de me dire, frère Duke, je donne la dîme, mais l'argent me manque. Je n'ai besoin pour ma famille. J'ai tellement donné cette année. Je vous promets que je vous enverrai une chèque par retour de courrier. Êtes-vous prêt à essayer la dîme sur cette base? Le pasteur a été très excité par cette offre et a commencé à payer la dîme. Cette année-là, Dieu s'est occupé de ses besoins de manière inattendue, de sorte qu'il n'a jamais eu à envoyer cette lettre à M. Duke. Vers la fin de l'année, il s'est rendu compte qu'il avait fait plus confiance à la promesse de M. Duke de subvenir à ses besoins qu'à celle de Dieu. Il a dit, « J'avais pris la parole d'un homme alors que je n'avais pas pris la promesse de Dieu. » Maintenant, j'ai prouvé. Ça, c'est le verset Malachie 3:10. Éprouvez-moi. Il dit, j'ai prouvé les promesses de Dieu et j'ai découvert qu'il prenait soin de moi et de ma grande famille avec un petit salaire. J'ai découvert que 112,50 par mois prenait mieux soin de notre famille avec la bénédiction de Dieu que 125 sans être sous l'alliance bénie qu'il a fait avec ceux qui cherchent d'abord le royaume de Dieu et qui payent la dîme. Ça, c'est tellement poignant, là, l'histoire de quelqu'un qui a prêché la dîme et ne pratiquait pas. Il a pris la parole d'un homme de le soutenir. Mais Dieu a déjà promis de nous soutenir. Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec ta substance et avec les prémices de tout ton accroissement. Ainsi, tes greniers seront remplis de plénitude et tes pressoirs regorgent de moût. Mais je dis, pour terminer, parce que c'est la fin, mais on a parlé des dons missionnaires, on a parlé de la promesse de la foi et pas la dîme. Pourquoi est-ce qu'on parle de la dîme maintenant? Je pense biblicalement et pratiquement. Vous ne pouvez pas donner aux missions si vous ne payez pas la dîme. Et pourquoi? Le but de la dîme, c'est la dîme est, en résumé, la dîme c'était de pouvoir pour les sacrificateurs qui a pris soin du temple. Parce que les Lévites, il y avait les Lévites n'avaient pas de soutien. C'était les offrandes, les sacrifices et la dîme, c'était pour prendre soin d'eux. La dîme, maintenant, c'est dans le même sens biblical parce que c'est pour prendre soin de pasteurs et de l'Église. C'est pour que, qu'on pense de... C'est vraiment pratico. Mais le but de la dîme, c'est pour que le pasteur puisse prendre soin de sa famille. Et je dis que vous ne pouvez pas donner la mission si vous ne payez pas la dîme, parce que si vous donnez pour quelqu'un d'autre d'avoir la nourriture sur la table, sans le faisant pour votre pasteur, je pense que ça ne fait pas de bon sens. De donner pour quelqu'un en Afrique sans prendre soin de notre pasteur, ça, c'est pas bon. Les statistiques ont fait le montant par année que chaque chrétien donnait à l'Église. Je ne vais pas dans tous les détails là, mais juste pour dire que le moyen de l'argent par année par un moyen nombre de membres d'Église, c'était 53 000 $ par an en enfant. Si on prend 53 000 $ par an, 71 des coûts sont des coûts opérationnels pour les bâtiments, et avec un moyen de 6,50 $ par pied carré par an, et avec un bâtiment d'une telle taille, ça prenait 35 000 $ par an de prendre soin de le bâtiment, juste les coûts opérationnels pour une église. Si on prend cette coût, 35 000 $ par an, par le moyen d'offrande, 53 000 $ ça reste moins de 20 000 $ par année. Comment est-ce qu'on peut prendre soin d'un pasteur avec 20 000 $ par année? Juste pour dire que c'est tellement important de donner la dîme, à cause de l'abus de la dîme, à cause de tout ce qu'on a parlé déjà, la gloire de Dieu, le travail à faire. Mais aussi que ça fait pas le bon sens de donner aux missionnaires si on ne donne pas pour nos pasteurs. Ça, c'est le but biblique de la dîme. Et on ne va pas parler trop là-dessus parce que c'est vraiment practical. Ben, c'est pourquoi c'est tellement important. Ben, pour terminer, qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que je reçois de Dieu si je donne? Comme on a lu, comme on a vu, éprouver Dieu qui va prendre soin de toi. C'est évident. Et l'histoire, je pense que l'histoire de ce pasteur de Texas, c'est tellement efficace que Dieu a pris soin de lui et sa famille. Et j'aime le verset pour terminer en Philippiens 4, verset 19. « Mais mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins, selon ses richesses avec gloire, par le Christ Jésus. » Ça, c'est la promesse. Ça, c'est ce qu'on y gagne dans les dons. D'avoir le promesse de Dieu de pouvoir pour nos besoins. J. Vernon McGee a dit, « J'ai entendu des gens dire qu'ils ne signeraient aucun engagement. » Pas même celui de donner une certaine somme d'argent, parce qu'il pourrait ne pas être en mesure de le tenir. Permettez-moi de vous dire que si vous achetez une maison, ou quoi que ce soit sur laquelle vous devez effectuer des paiements, ils vont certainement vous faire signer sur la ligne. Je ne sais pas pourquoi les gens peuvent signer pour tout le reste de la vie, mais ils ont peur de signer avec Dieu. Mon ami, si vous êtes sérieux, signez avec lui. Si nous sommes sérieux avec lui, il est sérieux avec nous. J. Vernon McGee a dit ça. Les gens ont peur de faire un promesse. Ce n'est pas un promesse pour nous, c'est pour la gloire de Dieu. C'est à cause des ressources que Dieu nous a données. Et si on engage en ça, Dieu prend soin de nous. Alors la question qui reste, c'est pourquoi pas? Avoir une partie des missions partout dans le monde, c'est pour tout, pour la gloire de Dieu et de voir les âmes sauvées. Mais j'espère que ces pensées au sujet de dons missionnaires de l'histoire ici, c'était une bénédiction puis un encouragement pour nous de continuer de donner, de commencer peut-être si on n'a pas, si on donne pas encore, de commencer de donner. Et je vais laisser pour Pasteur Roy de donner plus d'explications peut-être. Ben juste pour dire que Dieu soit glorifié par nos dons missionnaires ici à l'Église Baptiste de Saint-Augustin. Et c'est tellement, c'est de joie là-dedans. Et j'espère que Dieu va nous aider et Dieu va nous utiliser en 2023 pour la cause des missions. On prie. Au Seigneur, je prie que ce soit une bénédiction et une aide pour nous, un encouragement. Dieu, c'est pas facile des fois de parler des choses au sujet des dons missionnaires, des choses practicales comme ça, mais j'espère que c'est une aide pour nous tous. Et merci que, premièrement, c'est pour ta gloire. C'est pas pour nous, c'est pas pour que nous sentions mieux. C'est pas pour... c'est pour toi. Et merci, Seigneur, que surtout c'est pour toi. Et que tout ce qu'on donne vient de ta main. Merci que tu prends soin de nous. C'est évident. Merci pour cette année qui est presque finie. Qu'on est ici avec ta bénédiction. Et merci qu'on peut donner à des autres. D'être une bénédiction pour des autres. Et d'aider les missionnaires de faire le travail ou lequel tu les as appelés. D'apporter la bonne nouvelle à toute la création, dans le ministère de réconciliation. Et aide-nous dans cette chose très simple d'être une aide pour ceux qui sont des ambassadeurs de réconciliation partout dans le monde, de leur aide dans leur travail pour toi. Je te remercie et je te donne la gloire au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Pasteur.
Amen.